Aujourd'hui, on s'intéresse aux mobilisations qui ont eu lieu à l'université Bordeaux-Montaigne pour dénoncer la politique de gestion de l'université en matière de violences sexistes et sexuelles, ainsi qu'aux revendications des étudiants et des étudiantes de banaliser les cours le 8 mars. À 13h, Histoire de voir, Histoire au pluriel, présentera les rencontres artistiques et culturelles autour des exils qui auront lieu du 7 au 14 mars au théâtre de l'Inox. Et avant ça, notre journal. La vie de tempête sociale se poursuit à Météo France. Les syndicats et salariés dénoncent l'automatisation des prévisions qui nuirait à leur qualité et alertent sur la dégradation du service. Depuis plusieurs semaines, les usagers et les usagères ont constaté des erreurs sur le site de Météo France. En cause, le projet d'automatisation des prévisions, le projet 3P, en place depuis le 13 novembre. L'objectif de ce programme est de raccourcir la chaîne de publication des prévisions météo pour pallier au sous-effectif de l'entreprise. Seule une personne est chargée de vérifier les informations. Conséquence, la neige tombée à Bordeaux au mois de janvier n'avait pas été annoncée par Météo France ainsi que dans d'autres régions, créant des embouteillages et un blocage d'autoroutes. À Strasbourg, même 28 degrés ont été annoncés au mois de décembre. Des salariés de l'entreprise dénoncent, je cite, des erreurs grossières et une décrédibilisation de l'établissement et de ses agents. Je cite, certains collègues arrivent la boule au ventre, ne dorment pas de la nuit et font des burn-out, dénoncent les syndicats. Marie, prévisionniste en Nouvelle-Aquitaine, s'exprime dans Sud-Ouest. Elle s'inquiète de l'arrivée de la période estivale et elle dit, je cite, « La sécurité des usagers et usagères me tient à cœur, avec les orages, la canicule et les feux de forêt. Des prévisions erronées pourraient avoir des conséquences désastreuses. » Le syndicat FO de Météo France et le syndicat national de la météorologie CGT ont déposé un nouveau préavis de grève jusqu'au début de mars 2024. Ils réclament une réévaluation du projet 3P et une meilleure considération de leur expertise. Quant à elle, la direction de Météo France promet, je cite, « des évolutions qui sont prévues au premier semestre 2024 ». Un préavis de grève a également été déposé par Sudrail, le syndicat SNCF. Les aiguilleurs et aiguilleuses menacent de faire grève le week-end prochain, vendredi 23 et samedi 24 février. Les salariés réclament de meilleures conditions de travail, mais aussi, je cite, une majoration de la prime de travail de 60 à 300 euros et des embauches massives. Le week-end dernier, ce sont les contrôleurs et les contrôleuses de la SNCF qui étaient en grève. Une grève très suivie, puisqu'environ 70% des contrôleurs et contrôleuses avaient déposé un préavis de grève. Les mobilisations contre le projet de l'autoroute de l'A69 entre Toulouse et Castres continuent. Ce week-end, 6 personnes ont été arrêtées dans le Tarn. La préfecture indique que la police aurait été, je cite, « agressée violemment par 150 personnes, notamment avec des cocktails Molotov ». Le collectif La Voix est libre dément et évoque, je cite, un usage massif de gaz lacrymogène. Et on apprend dans la dépêche qu'une enseignante en philosophie de 30 ans a été condamnée ce jeudi 15 février à 8 mois de prison avec sursis. Elle aurait mis le feu il y a un an à des camions d'une entreprise participant au chantier de l'A69. Ce soir à 18h, un rassemblement en soutien à Julian Assange et pour défendre la liberté de la presse est organisé à Bordeaux sur la place de la Bourse. Depuis les scandales d'État et de films publiés sur la plateforme Wikileaks, Julian Assange est devenu un cas emblématique de la persécution mondiale du journalisme. En prison de haute sécurité à Londres et dans des conditions inhumaines, l'appel contre son extradition vers les États-Unis et les 175 ans de réclusion qui l'attendent est jugé les 20 et 21 février prochains. Dernier recours pour Julian Assange contre son extradition aux États-Unis. Et à 19h ce soir, une projection du documentaire « Ithaca, le combat pour libérer Julian Assange ». Une projection organisée par les Amis du Monde Diplomatique, Gironde, et qui sera suivie d'un débat. Et ça se passe au Théâtre du Levain, au 26 rue de la République, à Bègle. Des entrées à prix libre, la billetterie sera intégralement reversée au soutien juridique de Julian Assange. Et les réservations sont nécessaires, vous pouvez le faire à l'adresse théâtre.le.levain@gmail.com ou au 06 84 59 60 45. Midi 14 sur la clé des ondes et tout de suite on écoute un reportage sur les mobilisations féministes qui ont eu lieu la semaine dernière à l'université Bordeaux-Montaigne. Midi 30, mercredi 14 février, sur le parvis de l'université Bordeaux-Montaigne. Plusieurs organisations et associations ont appelé à une assemblée générale féministe. En cause, la politique de gestion des violences sexistes et sexuelles menée par la présidence de l'université Bordeaux-Montaigne. On écoute une étudiante qui nous donne les raisons de sa présence.
Pourquoi vous vous rendez à cet AG féministe ?
Bah parce que pour nous c'est important parce que le féminisme ça nous touche, genre c'est un peu un combat qu'on mène tous les jours et même là sur le sujet des VSS ça nous touche toutes et tous de près ou de loin et là avec ce qui s'est passé avec ce prof de philo c'est important de se mobiliser parce que c'est dégueulasse ce qui se passe quoi.
Un professeur de philosophie et ancien vice-président de l'université est accusé de viol par Barbara Stiegler, elle aussi professeure de philosophie. Plusieurs étudiantes ont également informé l'université du comportement problématique de ce professeur. Une étudiante rapporte dans le journal Sud-Ouest que ce professeur l'accueillait chez lui intégralement nu. La commission disciplinaire de Toulouse, chargée de se prononcer sur les mesures internes à l'université, a rendu son verdict. Le professeur accusé a été suspendu pour une période d'un an à partir du 1er février 2024. Passé cette période de suspension, le professeur pourrait alors revenir renseigner à l'université.
Comment t'as été au courant, toi, des affaires qui se passaient à Montaigne, notamment pour l'histoire du prof de philo, ancien vice-président ?
En fait, je l'ai su via les mails de la présidence qui un peu sortaient des excuses pour excuser ce prof et tout. Et du coup, on a cherché à savoir ce que c'était et on était un peu écœurés, quoi.
Écœurés, pourquoi ? De comment ça, de la manière dont ça a été géré ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ouais, c'est un peu ça parce que... ça nous saoule de voir qu'il n'est pas puni en soi et que là, il bosse pas, il touche son salaire et que l'année prochaine, il va revenir enseigner alors qu'il a plein d'accusations et que, encore une fois, c'est le patriarcat qui gagne, quoi. Ça nous saoule.
Et toi, comment t'aurais aimé que ça se passe ou comment est-ce que t'aimerais que ça se passe, là, dans le futur ?
Ce serait bien si tous les profs, toutes les personnes qui agressent, qui violent, soient virées, quoi. Enfin, on veut pas ça, quoi.
De manière définitive, quoi, plus d'enseignement possible.
Ouais, ce serait bien, première étape, quoi.
Tour à tour, des étudiantes et étudiants prennent la parole pour exprimer leur colère face à cette affaire. L'objectif de l'Assemblée Générale étant également de s'organiser collectivement.
Laisser encore des étudiants et des étudiantes se mettre en danger et être mis en danger. Les sœurs reviennent l'année prochaine et des L1, ce qui fait que on sait très bien comment ça fonctionne, ce genre d'affaires, ça va être oublié. Ça va être passé encore à la trappe parce qu'à nouveau, la justice pénale, on n'en attend pas grand-chose. Et je pense que c'est important pour tous qu'on montre que nous, on ne laisse pas faire, qu'on ne laissera pas faire et qu'on ne les laissera pas juste encore oublier cette histoire parce que je pense qu'on sait tous ici que ce n'est pas le seul professeur à avoir des comportements qui ne sont pas normaux et qui ne sont pas cool et qui sont juste inacceptables, que ça ne devrait pas avoir sa place et qu'en plus de ça... qu'ils aient un petit peu peur quand même et qu'ils se disent que peut-être que si un jour ça nous tombe dans les mains et qu'on a de vraies informations, et parce qu'on ne nous donne pas accès à ça et on ne nous donne aucune possibilité de nous dire quelque chose et taper du poing sur la table et dire qu'on ne veut pas être mis en danger constamment. Et c'est cool qu'on montre aussi que malgré le fait que la justice ne fasse rien pour nous aider, nous on essaiera au moins qu'il y ait des conséquences à ce qui est fait. Et voilà, donc je pense que c'est important qu'on essaye tous d'amener des idées et de faire des trucs parce que c'est compliqué d'agir tous même si on est rempli de bonnes intentions. Et c'est cool qu'on soit tous là pour pouvoir en discuter et savoir comment on peut bloquer des cours en vrai pour que ça se passe pas, comment on peut faire passer cette information à tous et même aux années prochaines, enfin aux années suivantes, pour que voilà, et comment on montre aussi que on n'est pas d'accord et on en a marre et que. On ne peut pas nous mettre en danger comme ça. Merci beaucoup.
Là, je pense qu'il faut vraiment se servir du symbole que c'est. C'est un professeur qui a une autorité. On est censé être en sécurité à la fac et on ne l'est pas du tout. Et en plus, on ne le sanctionne pas. Il s'est servi de son autorité pour abuser de plusieurs femmes et il est sanctionné d'1 an de suspension. Enfin, c'est juste ridicule. On nous chie dessus vraiment. Et là, je pense qu'il faut agir maintenant parce que sinon, il faut se taire à jamais, quoi.
Surtout que notre président, il le protège. Hein.
Sur tous les points, il le protège. C'est pour ça qu'on doute de sa parole quand il dit qu'il ne veut pas faire appel. Et c'est pour ça qu'on essaye de se renseigner. Je pense que c'est le premier angle d'attaque, parce que s'il peut faire appel, on le poussera à le faire. Mais malheureusement, il y a aussi la possibilité qui existe qu'il ne puisse pas faire appel pour de vrai et que pour une fois, il ne mente pas. Et dans ces cas-là, on aura besoin d'un maximum de soutien, quoi, parce qu'on n'aura plus de solution à part manifester, bloquer et voilà. Merci beaucoup en tout cas.
Enfin, bonjour à tous, enfin, moi c'est Gabriel, je suis militant d'ONPA, enfin, je pense qu'il y en a, parmi vous qui me connaissent déjà. Moi je pense que c'est déjà très bien qu'on soit présent aujourd'hui, etc. Et que ben, en fait déjà c'est bien que ce ne soit pas la première fois qu'on soit mobilisé contre, contre les violences sexistes et sexuelles sur cette fac. Il y a eu des AG en novembre qui étaient assez nombreuses, où ben, en fait on avait réussi à faire venir au-delà des seuls milieux qui discute un peu politique tout le reste de l'année, quoi, et que bah, en fait ça aussi il faut qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on fait dans nos promos pour en parler, pour dire aux gens que bah en fait militer contre ce genre d'injustice, c'est pas juste le rôle de quelques militants et tout, et que justement le cas d'AG, d'Assemblée Générale, où on discute comment est-ce qu'on se mobilise et tout, bah, c'est important. Après, bah, ça prend pas, parce que des fois les gens ils ont pas trop la tête à ça, même si moi je pense qu'ils devraient l'avoir, mais bon, on décide pas à la place des gens. Moi je pense que ce qui est important de se dire, c'est que bah, ces violences sexistes et sexuelles, bon, elles sont vraiment dégueulasses, et qu'en fait c'est pas juste le cas de ce prof là qui est déjà bien dégueu, c'est le cas de, bah, comme ça a été dit, d'un prof en archéo. C'est le cas aussi bah, d'autres profs dans d'autres facs de Bordeaux, et en fait dans plein d'autres facs. C'est le cas aussi bah, dans le monde du travail. Il y avait eu le cas de comment la. J'ai oublié le nom de la prof de philo qui avait eu des démêlés avec ce prof-là. Barbara Stiegler. En fait, c'est un truc qui va poursuivre pour nous la plupart des meufs, y compris une fois qu'on aura trouvé un boulot, quoi. Donc c'est bien qu'on se mobilise déjà sur la fac. Après, faut voir un peu. Comment est-ce qu'on arrive à faire ramener du monde, parce que je pense que c'est pas à nous tout seuls qu'on peut faire bouger un peu les lignes, quoi. C'est quand on est vraiment un peu nombreux, et que bah, mine de rien, pour s'attaquer vraiment à la racine du problème, c'est aussi bah, participer à toutes les mobilisations pour les conditions de vie des femmes, que ce soit le 8 mars, que ce soit aussi bah, défendre toutes les mobilisations sociales, parce que toutes les attaques sociales, ça touche les plus précaires, et breaking news dans cette société, bah, c'est plutôt les femmes qui sont les plus précaires, quoi. Donc, c'est aussi en se battant pour ces conditions-là qu'on fera que il n'y aura plus des hommes en condition de. Enfin, qui pourront abuser de leur position de pouvoir, quoi. On a intérêt à se mobiliser. Bon, là, je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire vu le petit nombre qu'on est. Il ne faut pas non plus désespérer, parce que si ça ne prend pas maintenant, il y a d'autres moments où ça peut péter. En fait, il y a tellement de raisons de se révolter qu'il ne faut pas désespérer non plus. Mais il faut un peu qu'on se demande un peu qu'est-ce qu'ils parlent dans nos promos, sur quoi les gens un peu ils discutent dans l'actualité, parce que il y a eu des mobilisations là, les dernières semaines, mais qui sont assez vite résorbées. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire bouger la fac si on sent qu'il y a un peu l'ambiance pour, quoi. Et c'est un peu ça qu'il faudrait qu'on discute maintenant, quoi.
Durant ces prises de parole, une étudiante dénonce le comportement d'un autre professeur de l'université. Cette fois-ci dans le département d'archéologie.
Alors moi, je veux bien parler, c'est pas pour la philosophie, il y a aussi une affaire en archéo. Archéologie, moi je suis étudiante en archéologie du coup, et ça fait aussi un petit moment qu'on proteste par rapport à un de nos professeurs. C'est dans des dimensions différentes de celles de philo, parce qu'on n'est pas sur une plainte pour viol en justice, mais c'est un prof qui est connu pour harcèlement à des étudiantes, pour des propos misogynes, notamment sur les chantiers de fouilles où il prend des étudiants. Sur plusieurs semaines en fait où on vit vraiment ensemble, où là, et ça fait très 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 longtemps que ça dure, que c'est connu. Il y a eu une décision de suspension pendant un an. Il a réussi à faire appel parce qu'il a un très bon avocat et a touché de l'argent pour diffamation, et il se victimise vachement sur sa situation, il parle de son état de santé mentale, etc. Il chouine beaucoup et ça a marché en justice, quoi. Enfin, il a fait appel et il a touché de l'argent, sachant qu'il a été suspendu avec son salaire, et derrière il s'est fait de la thune, quoi, là-dessus. Et il est, du coup, sa suspension a été réduite, donc il est revenu plus tôt que prévu. Actuellement, on a droit avec lui. Nous, on est en lien en fait avec des associations donc, comme Clash, qui nous suivent au niveau juridique. On a relancé des appels à témoignages. Et donc, c'était pour vous dire que la mobilisation, elle n'existe pas que en philo, et c'est global sur la fac, quoi. La discussion, c'est pas qu'une affaire de philo, c'est pas un seul prof, c'est sur la fac de manière générale. Et il y a d'autres affaires sûrement dans d'autres départements qui doivent aussi sortir sur la fac de manière générale. Et l'affaire de philo, c'est peut-être le point où on a le plus de possibilités, quoi.
Bah, du coup, je sais pas trop, mais oui, en effet, c'est hyper important. Enfin, peu importe la filière, et merci de le rappeler. Du coup, le prof d'archéo nous en a parlé lundi. Mais il y en a partout. Et je savais pas tous les tenants et les aboutissants. C'est hyper grave. C'est vraiment dramatique. Et en plus, du coup, pour le prof de philo, pareil, il a été suspendu en attendant la décision. Et il était à plein salaire. Et maintenant, il est à demi-salaire. Et là, du coup, si il était payé, c'est dramatique. Enfin, c'est vraiment ridicule. On va faire passer une feuille si vous voulez marquer vos numéros quoi pour être dans le groupe. N'hésitez pas, venez les écrire et on fera un groupe où on essaiera de tenir au courant des avancées et de voir ce qui est possible de faire.
Il y a plusieurs mois, un compte Instagram avait été créé, le collectif des étudiants et étudiantes en archéo, le but étant de libérer la parole et de dénoncer.
Donc toi, tu fais partie du collectif des étudiantes en archéo ?
Ouais, c'est ça. Mais du coup, nous, on s'est mobilisé avant les vacances d'été. Parce que on savait que potentiellement notre prof revenait à la rentrée et du coup on voulait être prêt pour la rentrée, avoir une communication et montrer qu'on était mobilisé, qu'on était contre son retour, parce qu'il a été suspendu en fait une première fois pendant un an et moins d'un an, et sa suspension elle s'est arrêtée avant à l'été quoi. L'été dernier, et il était censé revenir à la rentrée de septembre, donc on s'est vite mobilisé pendant l'été. On a écrit un communiqué, on l'a fait tourner à un maximum d'associations féministes. On a été soutenu donc par le planning familial, par Clash, par d'autres associations féministes. Et quand on a contacté le planning, on a appris pour l'affaire de philo en fait. Nous on n'était même pas au courant, on faisait ça de notre côté, et du coup on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas un prof en particulier, que c'était vraiment à l'échelle de la fac en fait et de la présidence de la fac. Et nous déjà on protestait contre cette gestion en fait et contre la cellule de veille de la fac qui était inefficace en fait.
La cellule de veille est un dispositif d'écoute, d'aide, d'accompagnement et de protection à destination des étudiants, étudiantes et personnels de l'université. Elle est en charge des questions de discrimination, de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles.
Aucun étudiant d'archéo a été sensibilisé à cette cellule alors qu'il savait déjà qu'il y avait des signalements et que plus de signalements... la fac n'a pas lancé d'appel à témoignage, n'a pas mentionné cette cellule de veille, quoi. Et on l'a su par le bouche à oreille, on savait tout par le bouche à oreille au dernier moment. Donc c'est ça qu'on dénonçait quand on en a parlé au planning, ça a fait écho avec l'affaire de philo. Et du coup là, on a pu monter une grosse campagne médiatique en fait, donc sur les premiers mois de la rentrée. Ce qui a marché, parce que la fac, 4 jours avant la rentrée, a resuspendu, mais ils ont pris la décision 4 jours avant la rentrée de resuspendre le prof d'archéo. Donc c'est qu'ils sentaient qu'il fallait qu'il fasse patte blanche, quoi. Donc on était assez contents de cette deuxième suspension.
Recontextualiser un petit peu, donc là il y a une plainte qui a été déposée au pénal contre ce professeur, et tu peux me dire de quoi il est accusé ?
Exactement, non. Enfin, il y a eu plusieurs signalements, et c'est du harcèlement, des propos misogynes. Mais sur les faits exactement, je ne saurais pas. Mais appel à la nuit des harcèlement, appel à la nuit des étudiantes, comportement misogyne. Et ce qui nous gêne en particulier, nous, c'est sur les chantiers de fouilles, parce qu'on est amené à aller en l'été plusieurs semaines passer sur les chantiers avec les profs. Et lui, il était connu pour mettre une ambiance misogyne et sur les chantiers, de vraiment le travail des hommes et le travail des femmes, quoi, et de donner le plus gros du travail aux hommes et de valoriser plus les hommes que les femmes et d'avoir des comportements en fait misogynes sur ces chantiers. Et voilà.
Comment vous avez été informé de tout le suivi de cette affaire, de tout ça ? Tu me dis qu'il a été suspendu 4 jours avant, que vous n'étiez pas informé ?
On a été informés de rien. En fait, nous, on était informés déjà parce qu'on était en contact avec Clash qui suivait l'affaire au niveau juridique. Nous, on n'y comprend rien. Donc, on a besoin d'associations spécialisées là-dedans qui peuvent nous vulgariser et nous expliquer ce qui se passe. Il y a le planning, en fait, qui nous suit. Donc, on l'apprend par les associations qui, elles, suivent les instances, etc. Et par le bouche à oreille, parce qu'on sait qu'il y a des profs qui soutiennent le prof en question, et il y a des profs qui le soutiennent plus ou moins, et on arrive à avoir des infos en grattant. Mais vraiment par du bouche à oreille, entre étudiants, nous, on en discute, et on est en mode, moi, j'ai eu telle info. On ne sait pas, du coup, si les infos, elles sont vraies ou pas, mais voilà, on essaye de démêler un peu tout le temps le vrai du faux et de se renseigner. Et c'est vraiment les assos féministes qui nous ont permis vraiment de bien comprendre toutes les procédures, etc.
Donc tu me dis que vous êtes suivie par l'asso Clash. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, me dire quel est l'objet de cet asso?
C'est une asso qui est sur Paris, qui est spécialisée, je pense qu'elles sont basées toutes sur Paris. Et donc on les a jamais rencontrées en vrai. Nous, on a fait plus des réunions en visio ou des appels. En fait, on les contacte comme ça. Et elles sont pas très nombreuses, mais elles sont spécialisées vraiment sur les affaires de VSS en milieu universitaire. Et elles suivent vraiment le côté juridique.
Juste pour bien comprendre où est-ce que ça en est la procédure interne, du coup, il y a une saisine qui a été faite pour cette affaire, quand même, vu que le prof a été suspendu ou pas? Est-ce que la cellule de veille a fait quelque chose, en fait, outre le fait qu'il ait été suspendu? Est-ce qu'il y a des étudiants, des étudiantes qui ont été entendus?
C'est monté jusqu'au CNESER.
Le CNESER pour Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. C'est un organe consultatif et également une juridiction administrative. Le CNESER a également des fonctions disciplinaires. Il statue en appel sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires à l'égard des enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses.
Et donc là, ce que vous craignez majoritairement, c'est que ce prof, en fait, il revienne et qu'il soit... Il est revenu, ça y est ?
Il donne cours, ouais. Il donne cours actuellement.
Donc vous avez cours avec lui, c'est quoi l'ambiance ?
C'est particulier. Quand il est revenu, en fait, au début, les premiers cours qu'il a donnés, il s'est permis de mentionner l'affaire. En fait, il avait une feuille qu'il avait préparée, où il avait un texte tout prêt, qu'il a lu à chaque promo, où il explique même qu'il est innocent, en fait, il va jusque-là. Et alors qu'il n'est pas censé mentionner le dossier encore ouvert. Donc, et forcément, bah, ça plaît pas beaucoup. Et les étudiants ont du mal à boycotter vraiment, parce que en fait, les faits, en fait, on les connaît pas vraiment. Donc nous, on veut qu'il y ait justice, mais on sait pas faire justice nous-mêmes non plus. On sait pas, enfin, puisque les faits en soi, nous, on est aussi pas les victimes directement, forcément. On est juste des étudiants. On sait qu'il a des histoires, mais on veut pas faire justice nous-mêmes. On sait qu'il y a pas de justice et on est très déçus. Et on voit qu'il a le cran quand même de clamer son innocence, alors qu'en fait, il n'y a pas eu de justice, quoi. Donc ça déçoit beaucoup, mais en même temps, il n'y a pas de volonté forcément de boycotter les cours, etc. Parce que tout le moment, en fait, il a été suspendu 4 jours avant la rentrée. Donc 4 jours avant la rentrée, tous ses cours, ils ont simplement été annulés, il n'a pas été remplacé. Donc ça fait un semestre où on n'a pas eu les cours en question, et de sa matière, on n'en a pas entendu parler. Et du coup, il y a un manque, en fait, il y a eu un manquement dans les enseignements par son absence, et du coup maintenant qu'il est revenu, les gens ont aussi besoin de ses enseignements, et c'est aussi la faute de la fac de pas l'avoir remplacé, en fait. Et en fait, son retour était aussi attendu parce que ses enseignements, donc c'est quelque part, il y a un peu le cul entre deux chaises il faut bien que j'aille en cours, il y a une obligation à aller en cours, en fait, et il y a une déception, mais qui est pas assez forte pour boycott. Parce que voilà.
Mais vous, en tout cas, ce que vous préféreriez, c'est qu'il n'exerce plus et que vous ayez un autre prof, en fait, pour cette matière, que son cours soit remplacé.
Oui, c'est ça. On aurait aimé qu'il soit remplacé. Et il y a très peu de ces cours qui ont été remplacés. Et pour les cours qui ont été remplacés, la remplaçante n'a pas été payée. Alors que lui était payé, hein, suspendu payé. Mais une prof qui a accepté de remplacer quelques-uns de ses cours n'a pas été payée et le reste n'a pas été remplacé. Donc voilà, c'est aussi ça indigne beaucoup. Ouais.
Comment est-ce que ça vous pénalise dans votre formation, en fait, d'avoir eu tous ces cours qui ont sauté et d'avoir, en fait, ce prof avec cette ambiance pour donner ses cours?
Bah, ça pénalise beaucoup, surtout qui dirigeait ceux qui sont le plus touchés, les étudiants qui sont le plus touchés, c'est ceux qui étaient dirigés par lui en master. Et qui, du coup, on se retrouvait sans directeur de mémoire pas longtemps avant la soutenance, quoi. Donc ça, c'était compliqué. Il y a des promos où c'était la moitié des cours, en fait, qu'il était censé tenir. Et donc la moitié des cours, juste, sont sautés de l'emploi du temps. Donc des enseignements entiers et voilà.
Et c'était quoi la réponse de l'université face à ça? Est-ce que vous en avez parlé à la direction? Est-ce que vous avez demandé en fait à ce qu'il n'exerce plus et d'avoir d'autres cours avec un ou une autre prof?
Les seuls interlocuteurs qu'on avait, c'était les responsables du FR et les responsables de département qui jouaient un peu le tampon entre la présidence et nous. Et ils ont essayé de faire des réunions d'information. Mais il y a eu une réunion d'information qui a été assez spectaculaire parce qu'en fait on se retrouve dans l'amphi, on est invité à convier à cette réunion d'information, on se retrouve dans l'amphi avec responsable du FR de département et là il y a un mail du rectorat qui tombe, interdiction de la réunion d'information. Donc c'est-à-dire que plus haut vraiment il y avait une volonté d'omerta et les responsables du FR de département en fait qui sont un peu le cul entre deux chaises encore et en fait c'est à la responsabilité leur d'en haut, les responsables du FR de département se retrouvent avec la responsabilité qui leur tombe dessus et c'est eux qui se prennent aussi les revendications des étudiants et ils font vraiment ce tampon là et ils savent pas vraiment on a du mal à vraiment trouver des interlocuteurs le président aussi et le rectorat se protègent en fait, c'est tout ce truc institutionnel nous bloque en fait. Et si je peux préciser que le responsable du FR département nous a dit de penser à nos carrières, d'apprendre à travailler avec des gens qu'on amenait moins et de savoir être égoïste, on a eu des discours de ce type, voilà. Donc des discours qui minimisaient vachement et qui nous demandaient de nous taire et de continuer quoi, à travailler. Mais c'est ce qu'on demande, c'est ce qui a été demandé au responsable du FR département, il faut redescendre les directions d'en haut, quoi. C'est ce qu'on nous demande de nous taire et d'apprendre à travailler avec des gens qu'on aime moins, d'être égoïste.
Et vous, comment vous l'avez reçu ce message?
C'est pas du tout passé, hein. Ça indigne beaucoup. Et en même temps, il y a beaucoup de résignation. Et le fait qu'il y ait l'affaire de philo en fait en parallèle, on se sent moins seul en fait. Et ça permet voilà, d'avoir le planning familial, et avec le soutien du planning familial, etc., on voit que c'est pas une affaire isolée et qu'il y a vraiment un problème global au niveau de la fac. Et ça permet un appui. Et ça... Parce que si on était seul, en vrai, si cette affaire-là était en la prenant isolée, quoi, là, on aurait moins de. On serait vraiment dans une résignation. Alors que là, il y a quelque chose à jouer. On voit qu'il y a d'autres camarades dans d'autres filières qui ont les mêmes problèmes et qu'on a quelque chose en fait à jouer plus global.
Et donc, aujourd'hui, là, à 12h30, il y a une AG féministe donc, pour que les gens se rassemblent. À quoi ça sert de se rassembler comme ça et...
Mais là, actuellement, il y a toute la semaine, il y avait la présidence de la fac qui inaugurait une semaine de sensibilisation aux violences sexuelles et aux discriminations. De manière vraiment hypocrite vu tout ce que je vous ai dit avant et toutes les mobilisations qu'on fait depuis des mois où on dénonce la mauvaise gestion des violences sexuelles sur cette fac. Et ça, c'est aussi montrer une présence sur la fac, montrer des banderoles, des pancartes violeurs hors de nos facs pendant cette semaine. C'est aussi un peu pour contrecarrer un peu cette semaine un peu bien pensante que nous propose le président de la fac, maintenir la pression en fait, montrer qu'on est nous on est toujours mobilisés quoi. Et puis pour s'organiser, ouais, c'est important de s'organiser actuellement.
Ce qui est largement dénoncé dans ces deux affaires, c'est que les suspensions des professeurs accusés sont seulement temporaires.
Je m'appelle Aïna, je suis étudiante en L2 philosophie à Montaigne. Il a été suspendu que d'un an. En fait, la fac l'a suspendu un an, 6 mois, je crois, pour prendre des précautions. Mais le vrai truc officiel, c'est encore un an. Ça a commencé le 2 février, donc ça finira l'an prochain, le 2 février. Il va reprendre les cours le 2 février, mais je pense pas qu'il va. Enfin, pour moi, il va pas reprendre les cours parce que c'est pas possible.
C'est pas possible, mais pour l'instant, en tout cas, la suspension, elle est effective que pour un an. Donc c'est ça que vous dénoncez, c'est son retour à la fac.
Exactement, mais c'est pas acceptable. Mais pas acceptable, pas juste se révolter. C'est pas possible, on va bloquer, on va faut se démerder.
Je m'appelle Nour, je suis en L2. Et du coup, je voulais juste apporter des précisions. En fait, donc, l'ancien vice-président a été suspendu donc, à peu près un an en attente des résultats. Mais pendant cette suspension-là, il recevait un plein salaire. Donc, c'était le salaire de quand il était professeur. Il était juste en attente. Et maintenant, le résultat, c'est qu'il va avoir un an de suspension à demi-salaire. Donc, pour avoir abusé de ses élèves et de ses collègues, il a un an seulement de suspension, après laquelle il pourra redonner cours, et même à des élèves qui ne sont pas informés. Et en plus, pendant cette année-là, il est quand même payé à demi-salaire. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de décision prise, en fait.
Ces mobilisations interviennent lors de la semaine de sensibilisation aux violences sexistes, sexuelles et aux discriminations organisées par l'Université Bordeaux-Montaigne.
Pourquoi c'était important en fait de se mobiliser pendant cette semaine ?
Alors justement, ça tombe au hasard qu'on se mobilise pour le prof de philo, le prof d'archéo et les multiples violences sexistes et sexuelles. Mais c'est un hasard que ça tombe cette semaine-là. C'est pas du tout, au contraire, pour moi, c'est pas du tout un soutien à la semaine contre les violences sexistes et sexuelles qu'un président a accepté d'organiser dans sa fac, un président qui protège un violeur. C'est au contraire plus des mots cette semaine-là que des actes. Et justement, on considère que les mots, on s'en fout un peu. S'il n'y a pas les actes, on s'en fout.
Ouais, il y a plusieurs assos féministes qui dénoncent l'instrumentalisation de cette semaine de sensibilisation. Est-ce que vous avez fait un petit peu le tour des ateliers ? Est-ce qu'il est question de ce qui s'est passé en interne à l'université ?
Non, je ne veux pas. Je me fiche complètement de ce que dit l'université à partir du moment où on nous a menti plusieurs fois et on ne nous a pas menti plusieurs fois sur seulement ce sujet-là. Donc ça m'importe pas du tout, je n'ai même pas envie de m'y pencher.
Donc c'est vraiment vous qui organise cette semaine de sensibilisation qui pose problème en fait. Il n'y a pas de légitimité à l'organiser si c'est la présidence de l'organiser.
En fait on trouve ça très hypocrite. En effet, quelqu'un qui va aller soutenir l'ennemi littéralement et qui va laisser ses étudiants et étudiantes déjà en incompréhension complète, en plus sans aucun soutien, et on sait même pas réellement si à un moment donné seulement elles ont été écoutées. On a plus tendance à penser que non. Maintenant on n'a malheureusement pas de preuves à nouveau, mais c'est vraiment hypocrite, mais à souhait. Lundi, on était vraiment juste à côté d'eux en train de chanter des chants féministes et de parler. Le président est en train de manger des petits fours sans même regarder ce qui se passait. Enfin, il y a une hypocrisie qui est révoltante. Et c'est ridicule, cette semaine ne vaut rien, vraiment, elle ne vaut rien. Et c'est une appropriation de la souffrance des victimes d'oser faire une semaine contre les violences sexistes et sexuelles maintenant, alors même qu'il y a eu si peu de soutien et qu'il n'y en a toujours pas, alors même qu'il n'y a aucune motivation de la mobilisation de la part de la présidence de l'université pour les problèmes qui sont en cours, que ce soit du coup en archéo où le prof est en train de faire cours, ou en philo où le prof va revenir faire cours. Il n'y a absolument rien qui se passe, et à côté de ça on a une jolie semaine de sensibilisation, enfin, c'est ridicule.
Vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous fait de se mobiliser là collectivement avec les étudiants et les étudiantes de la fac ?
C'est vrai que je me dis qu'on n'est pas assez nombreux, mais ce qui me motive, c'est qu'en fait il y a plein de gens qui sont d'accord, il y a plein de gens qui sont scandalisés mais qui ne se mobilisent pas, et c'est pas le nombre de personnes qui sont ici qui me dit que il y a ces personnes-là qui sont déterrées. Il y a plein de gens. Il faut juste réussir à les contacter et à leur dire surtout que c'est pas impossible et que c'est pas fini. Parce que je pense qu'il y a un truc qui démotive, c'est que les gens se disent « de toute façon, c'est mort, ça va encore être un prof qui va continuer d'exercer son métier ». Non. 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 Il y a des professeurs qui ont été virés à vie de tous les établissements. Je vois pas pourquoi le nôtre, il pourrait pas.
Bah, moi, je veux bien ajouter juste un truc, c'est que bah, même si on est peu, ça fait déjà très plaisir de voir qu'on est là. Ça fait plaisir de voir qu'on va continuer. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont d'accord. Ça fait plaisir de voir des gens comme vous qui interviewent. Ça fait plaisir de voir les articles dans le Sud-Ouest. Ça fait plaisir de voir qu'il se passe des choses et qu'on n'est pas seul. Et je veux que tout le monde sache que personne n'est seul, qu'on est tous là, que ce soit même pour recueillir des témoignages. C'est pas mon métier, mais je suis là pour croire les femmes. Et je suis là pour les encourager et on est tous là pour ça. C'est hyper important de ne pas se sentir seul là-dedans, même si l'université n'est pas avec nous, nous on est ensemble et c'est le principal.
Alors juste peut-être pour parler de la suite de la mobilisation, là il y a un groupe WhatsApp qui va être créé pour justement parler de ces problématiques. Vous pouvez m'en parler un petit peu au micro?
Bah en fait on veut créer un groupe WhatsApp parce qu'on, du coup comme Anya l'a dit, on essaye de se renseigner, et donc pour toutes les avancées qu'on pourrait avoir d'un point de vue renseignement juridique, on veut pouvoir tenir les gens au courant, et en plus bien sûr pour prévoir n'importe quelle mobilisation, on veut que tout le monde puisse le savoir. Donc c'est un groupe WhatsApp qui pour l'instant c'est juste les gens qui sont ici, mais j'ai bien l'intention qu'ils grossissent, et on verra bien ce que ça peut donner, mais voilà, on continue.
Si vous êtes intéressé par ce groupe WhatsApp, vous pouvez contacter la Clé des Ondes et nous vous ferons parvenir les informations. Dans un des bâtiments de l'université, des affiches sont disposées. Elles informent sur les violences et la manière de les dénoncer et de les prendre en charge. De l'autre côté de la vitre, un drap avec inscrit « Justice pour les victimes » a été hissé par les personnes présentes à l'AG féministe. Deux étudiantes me donnent leurs impressions sur cette semaine de sensibilisation organisée par l'université.
Je m'appelle Francisca, j'ai bientôt 19 ans, je suis en L1 de l'LCER anglais.
Donc cette semaine, il y a une semaine de sensibilisation aux violences sexuelles et aux discriminations à la fac. Vous étiez au courant, enfin, vous en avez vu quelque chose?
Oui, on a eu des messages sur le site de la fac concernant les réunions, etc., pour se tenir au courant. Mais sinon, pas plus que ça, il n'y a pas des gens qui sont venus nous en parler ou quoi. C'était vraiment des messages.
Et vous avez assisté à certains trucs, certains ateliers. Est-ce que vous êtes sensible à ces questions?
Alors, moi, je m'appelle Agathe, j'ai 18 ans, je suis aussi en première année de littérature anglaise. Des fois, il y avait justement des conférences, des choses comme ça, où j'aurais voulu assister, mais c'est par rapport à nos cours, où des fois, ça ne peut pas concorder au niveau des timings. Donc, je trouvais ça assez dommage, parce que du coup, c'est des heures où beaucoup ont cours, malgré tout, et ça nous empêche d'y participer. Mais après, voilà, comme Francisca a dit, c'est vrai qu'on nous avait un peu montré sur le site, mais sinon, personne n'est vraiment venu nous en parler. Et je pense que pour ceux qui vont pas régulièrement sur le site de la fac, ils peuvent pas vraiment être au courant. Donc bon, c'est un peu dommage.
Parce que toi, par exemple, si tu n'avais pas eu les cours, tu aurais voulu participer à des ateliers, des trucs, ça t'intéressait?
Oui, vraiment, justement, ça m'aurait beaucoup intéressé, même s'il y avait justement les expositions, tout ça, de pouvoir aller les voir, etc. Mais du coup, on ne peut pas tout le temps, donc c'est un peu dommage. Ouais.
Donc vous, vous êtes en L1, donc vous êtes arrivé cette année à la fac. Est-ce que vous êtes au courant un petit peu des affaires qu'il y a eu en interne déjà à l'université concernant des faits de violence sexiste et sexuelle?
Moi, je crois que j'avais entendu parler d'un problème dans les profs. Je crois qu'il y avait eu un prof qui avait justement été accusé de viol par quelqu'un. Donc, c'est quand même des choses qui sont graves. Donc, forcément, moi, ça m'a un peu sidérée d'apprendre ça. Donc, et justement, je sais qu'il y a aussi beaucoup de manifestations et de femmes qui ont pris la parole par rapport au fait que ça avait été très mal géré par la fac. Donc, après, nous, on est en L1, donc c'est vrai qu'on ne sait pas tout exactement comment ça s'est passé. Mais oui, ça fait un peu peur d'ailleurs de se dire que même nos professeurs peuvent être des agresseurs, quoi.
Et donc tu sais que voilà, ça a été mal géré, enfin en tout cas c'est dénoncé que ça a été mal géré par la fac. Vous, comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une université où vous êtes protégé, ou est-ce que justement cette affaire, elle révèle des trucs où vous vous sentez pas en sécurité par rapport à ça?
Moi quand même en soi, j'ai pas eu de problème, je me sens quand même assez bien et j'ai pas peur d'y aller. Mais après c'est vrai que juste de savoir qu'un professeur avait pu être un agresseur, surtout en tant que femme avec beaucoup de professeurs masculins, ça peut mettre un peu mal à l'aise, je pense, de savoir ça.
Je pense que c'est important de se renseigner auprès des ressources qui nous sont mises à disposition, parce que pour tout le monde, je pense que certaines personnes n'ont pas encore vraiment conscience que c'est des faits qui sont réels. Même par rapport à ce qui se passe à la fac, souvent même nos proches sont plus inquiets que nous. Il y a des articles qui sortent, etc. Ils nous envoient plein de messages pour nous dire de faire attention, donc forcément ça ne fait pas nous sentir super en sécurité. Après, comme Agathe a dit, on n'a eu aucun souci. Voilà, on espère ne pas en avoir, mais c'est sûr que ce qui représente une forme d'autorité et qui est accusé de faits totalement horrifiques, c'est vrai que c'est pas du tout rassurant, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de s'informer, tout le monde, que ce soit des filles, des garçons, des adultes, même des ados, c'est important de se renseigner, quoi.
Sur le parvis, les mobilisations féministes continuent. des militants et des militantes distribuent des tracts à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes prévue le 8 mars.
Bonjour, moi je suis Maya, du coup je suis étudiante en histoire en deuxième année et militante au Point Levé et à Du Pain et des Roses.
Et donc aujourd'hui vous tenez un stand là, ce midi particulièrement, durant la semaine de sensibilisation aux violences sexuelles et aux discriminations. C'est quoi ce stand que vous tenez aujourd'hui ?
On tient une table d'abord pour discuter avec les étudiants. À l'approche du 8 mars, on a lancé une pétition qui réclame la banalisation des cours le 8 mars pour permettre au maximum d'étudiants de se mobiliser pendant cette journée. Et ensuite, cette semaine de la fac de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles, il y a une réponse des étudiants qui sont des assemblées générales qui dénoncent en fait l'hypocrisie de la fac, alors que justement par tout un tas de collectifs et un mouvement en début d'année scolaire qui dénoncent la gestion désastreuse des violences sexistes et sexuelles à l'université, on a une université qui se fait un vernis progressiste en fait en faisant cette semaine sans en réalité prendre les mesures qu'on avait demandées contre les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire une commission indépendante contre les violences sexistes et sexuelles et la fin de l'opacité sur les protocoles de gestion.
Voilà, on vient d'écouter notre reportage sur les mobilisations féministes qui ont eu lieu à l'université Bordeaux-Montaigne la semaine dernière pour dénoncer la politique de gestion des violences sexistes et sexuelles. Les étudiants et les étudiantes de Montaigne se mobilisaient la semaine dernière à l'université pour demander une banalisation des cours pour la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et à l'université de Bordeaux, la même demande a été adressée à la présidence de l'université. Et on est au téléphone avec Marine Graff. Bonjour Marine.
Bonjour.
Donc toi Marine, tu es responsable de l'Union étudiante Bordeaux, syndicat étudiant. Et tu es également élue au conseil d'administration à l'université de Bordeaux. Alors Marine, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important pour les étudiants, les étudiantes et le personnel de l'université de demander en fait cette banalisation des cours pour la journée du 8 mars ?
Alors déjà en fait au début de ce conseil d'administration, c'est vrai que on nous a un peu ouvert la porte vers cette demande-là. Nous c'était une demande qu'on avait prévu de faire, notamment avec le Point Levé qui est élu avec nous au conseil d'administration. Donc voilà, la demande elle a été d'abord faite par une usagère en fait de la fac, une professeure j'imagine, mais voilà, qui en gros a posé la question. Quel est l'intérêt en fait de mettre des conférences tout au long de la journée et tout au long de la semaine en fait, alors que personne ne peut y aller parce que les cours ne sont pas banalisés. Donc en fait, il y a cette volonté, comme l'a dit le Point Levé tout à l'heure d'ailleurs, il y a vraiment un vernis inclusif que se met la fac, alors même que en fait, elle ne permet pas à ses usagers et à ses étudiants et étudiantes de se renseigner par rapport aux violences sexistes et sexuelles. Mmh. Nous, on avait vraiment cette nécessité-là de pouvoir encourager la démocratie étudiante et faire en sorte que tout le monde puisse donner en fait, son avis, son ressenti. En fait. Mmh.
Lors d'un conseil d'administration de l'Université de Bordeaux a refusé de banaliser les cours pour la journée du 8 mars. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que vous vous attendiez à cette réponse de la part de la présidence ?
Écoutez, moi sur le moment, en fait, faut pas être naïf, hein, nous, à l'Union étudiante, c'est la première fois qu'on a des syndicats un petit peu plus radicaux qui sont élus au sein de l'université. Moi, très personnellement, je me suis dit, la banalisation directe, comme ça, ce sera compliqué de l'avoir, mais ce qui m'a d'autant plus surprise, c'est vraiment le refus de l'université de même ouvrir la discussion, c'est-à-dire que nous, on s'attendait peut-être à une excuse des absences, voilà, pour essayer de ne pas pénaliser les étudiants. Et même ça n'a pas été autorisé. Donc voilà, c'est un message politique fort, non seulement pour les étudiants et les étudiantes, mais aussi envers les usagers, notamment dans un contexte où on a eu des affaires de VSS dans l'université d'à côté, hein, mmh. à Bordeaux-Montaigne, et alors même que l'université, comme on l'a dit, se dit inclusive et féministe. On n'a eu d'ailleurs aucune réaction pendant ce conseil de la part d'Interasso. Donc voilà, je le déplore. Donc... voilà, la présidence ne souhaite probablement pas devenir une université où la démocratie étudiante est un principe auquel il ne faut pas déroger. Donc au contraire, vraiment, elle est mise au second plan.
Est-ce qu'il y a déjà eu des banalisations de cours pour des mobilisations sociales à l'Université de Bordeaux ?
Non, c'est quelque chose d'assez nouveau. Comme je vous l'ai dit, en fait, on est vraiment sur une première où on a des élus combatifs et radicaux qui sont à l'université. Donc, je pense que c'est une première et c'est pour ça que on ne s'attendait pas à une grande compréhension de la part de l'université. Mmh. Mais voilà, qu'on le veuille ou non, les étudiants et les étudiantes, ils sont avant tout des citoyens, des citoyennes, et ils ont des opinions. Donc voilà, cependant, le féminisme, c'est quelque chose qui est plutôt universel, hein, je pense. Le féminisme, voilà, qu'on soit de droite ou de gauche, ce serait une mauvaise foi de dire qu'il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais voilà, certes, on n'a pas les mêmes analyses sur ce fait-là. Mais le fait est que chaque jour, les femmes et les minorités de genre, elles sont agressées, elles sont violées, elles sont réprimées et très peu considérées. On le rappelle, hein, on a une femme sur six, enfin une femme qui est violée sur toutes les 6 minutes, une femme sur 7 qui sera violée dans sa vie. Hein. Il y a eu d'ailleurs une puissante action de Nous Toutes 33 qui a été lancée. Donc voilà, les écarts de salaire, ils sont toujours assez importants à poste égal. Et voilà, trop d'étudiants et d'étudiantes subissent des oppressions patriarcales sur leur lieu d'études, pardon. Et nous, on trouve ça inadmissible, on en a marre de voir nos amis agressés, violés pendant les soirées étudiantes, on en a marre qu'il n'y ait jamais de safety mais de communication sur les VSS lors de ces événements qui sont d'ailleurs organisés par les assos étudiantes. Voilà, il y a tellement de raisons pour les étudiants et les étudiantes de manifester le 8 mars, mmh. et la présidence a balayé ça d'un revers de main, quoi.
Donc tu l'as dit, avec l'Union étudiante Bordeaux, vous dénoncez cette position de la présidence qui pour vous n'est pas entendable lorsque, je cite, on prétend être une université inclusive. Pour vous, quand on se tarit d'avoir une politique voilà, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, une politique en faveur de l'égalité homme-femme, c'est pas, on doit permettre en fait ces mobilisations.
Oui, bien sûr, mais en fait je pense que la présidence est peut-être dans un contexte où elle a peur de l'impact que les mobilisations étudiantes pourraient avoir sur le modèle actuel de l'enseignement supérieur. Nos droits, il faut bien se le rappeler, c'est des conquis sociaux, hein, c'est pas des acquis. Et si on veut que les femmes et les minorités de genre, pardon, soient considérées de la même manière que sont les hommes cisgenres, voilà, et pas seulement sur le papier, hein, comme le fait la présidence de l'université, il va falloir se battre. Et c'est pas seulement des conférences auxquelles d'ailleurs les personnes qui auraient vraiment besoin d'y aller n'y vont pas. Qui vont changer les choses, en fait. Mmh. Par respect pour toutes celles et tous ceux qui se sont battus, on peut pas rester docile face à cette décision qui est vraiment politique. Il y a une volonté de nous faire taire, nous, les syndicats radicaux. Et l'université a déjà du mal à nous donner ne serait-ce qu'un local à l'université, alors qu'on est censé de droit en avoir un. Enfin, voilà, tout ça, c'est pas fini pour nous, tout est possible. Et même si l'université est pas avec nous, nous, on est ensemble dans cette lutte en tant que femme et minorité de genre, et on peut faire de grandes choses. Mmh.
Donc, malgré ce refus de banalisation des cours de la part de l'université, vous allez quand même vous mobiliser pour le 8 mars, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous dire comment ça risquerait de pénaliser les étudiants et les étudiantes pour cette journée qui participent aux mobilisations ?
Bah, participer aux mobilisations, évidemment, il y a un grand risque, notamment pour les étudiantes et les étudiants boursiers et boursières. On le sait, dès qu'on a des absences répétées, on risque de perdre sa bourse. Voilà, et même parfois à terme sur le logement, etc. Donc évidemment, rater un examen, il n'y a pas de rattrapage en plus à l'Université de Bordeaux. Les rattrapages sont très limités. Il n'y aura pas le droit à l'erreur. Et puis surtout, j'imagine que voir une absence le 8 mars, on se doute de pourquoi l'élève a eu une absence. Mmh. Donc c'est... Il y aurait vraiment moyen de faire pression, et c'est pour ça que je pense que la plupart des étudiantes et des étudiants qui ont envie de se mobiliser ce jour-là ne le pourront pas. Mmh. Parce que justement, les cours ne sont pas banalisés, malheureusement.
Et donc, pour terminer, est-ce que tu peux nous annoncer un petit peu les rendez-vous, les prochaines mobilisations qui vont avoir lieu ?
Oui, bah, bien sûr, évidemment, il y aura une manifestation qui sera organisée par l'AG féministe, évidemment, et puis Nous Toutes 33. Donc il y a un rendez-vous, évidemment, où tout le monde y est invité, hein, Place de la Victoire à midi, le 8 mars. Donc voilà, c'est vraiment un appel à la grève féministe. Tout le monde doit se mettre en... Toutes les femmes et les minorités de genre doivent se mettre en grève pour justement faire part de notre indignation, notamment face à cette décision de l'université qui balaye d'un revers de main les luttes féministes au sein de l'université et qui méprise vraiment les femmes et les minorités de genre de façon générale.
Je te remercie, Marine Graff. Je rappelle que tu es responsable de l'Union étudiante Bordeaux et élue au conseil de l'administration de l'Université de Bordeaux. Merci, Marine.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.